lire les paroles d'une chanson. Chanson qui m'a interpellé quand je l'écoutais quelques années, de Alain Chamfort. Ça s'appelle L'ennemi dans la glace. Et voilà ce qu'elle dit. Il y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie, qui me défie, qui s'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace. Il sourit, mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace. Il ne me veut pas du bien. Il y a chez moi un hôte indésirable, insaisissable, qui vit sous mon toit, qui dort dans mon lit, qui jamais ne m'oublie. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il sourit, mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il ne me laissera pas en paix. Dehors, je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir. Ce n'est pas d'eux que vient le danger. Mais je reconnais chaque soir mon pire ennemi dans ce miroir. Alors, j'aimerais poursuivre avec vous dans l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la perspective de la maturité que nous offre cette épître, la maturité que nous avons besoin d'avoir face à nous-mêmes. Faire face à nous-mêmes et à nos faiblesses. Se regarder en face, dans la glace. Et nous pouvons lire au chapitre 3 de l'épître de Jacques, pardon, au chapitre 4, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Les versets 9 et 10 de notre épître nous donnent trois termes révélateurs de nos objectifs. Si vous reprenez ce verset 9 et ce verset 10, trois termes apparaissent: le rire, la joie et l'élévation. Et oui, dans la vie, comme chante quelqu'un d'autre, Christophe Maé, je crois, on le veut le bonheur, oui, on le veut, tout le monde veut l'atteindre, n'est-ce pas? Le rire, la joie et l'élévation vers, nous dit le mot exactement, l'élévation vers le sommet de la prospérité, vers les honneurs, vers le bonheur. L'élévation vers le bonheur. Seulement voilà, il y a très vite chez le chrétien un faux rire, une fausse joie et une fausse élévation. Et c'est pourquoi Jacques leur dit là, oh, faut s'arrêter là. Ah oui, votre rire qui se change en deuil. Ah, votre joie, qu'elle se change en tristesse. Votre élévation, humiliez-vous. Sentez votre misère. Il y a très vite chez le chrétien un faux rire, une fausse joie, une fausse élévation quand aucun des trois ne résulte de l'action de Dieu dans notre vie. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on peut très vite s'installer dans un faux rire, une fausse joie, une fausse élévation. Et oui, parce que nous avons rencontré Jésus et nous en sommes heureux, nous sommes satisfaits d'être pardonnés. Nous sommes heureux d'avoir Dieu pour ami, de ne pas traverser l'existence sans lui. Nous sommes heureux d'avoir la vie éternelle. Nous sommes satisfaits aussi du ménage que Dieu a pu faire dans notre vie et qui sûrement nous a aidés à avoir une vie plus droite, plus équilibrée, moins chaotique. Oui, on en est heureux. Mais voilà, à un moment, nous trouvons cela satisfaisant, oui, mais suffisant. Nous avons Dieu dans notre vie, nous en sommes heureux, mais nos cœurs comme nos mains jettent aussi vers le monde dont le rire, la joie et l'élévation nous tendent les bras. Et on les intègre comme un complément acceptable, une espèce de compromis correct, de la même façon qu'une personne mariée peut trouver un compromis correct en allant compléter son bonheur conjugal en jetant ailleurs. C'est ce que Jacques nous dit en appelant adultère que vous êtes. Votre joie, votre rire, votre élévation, vous allez la compléter parce qu'à un moment, vous en êtes arrivé dans un stade de votre vie chrétienne où vous vous dites, bon, c'est suffisant, et puis le monde, c'est quand même pas si mal, il y a des choses pas si mal dans le monde. Son rire, sa joie et son élévation, ça va. Dieu est catégorique. Hein. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors Jacques appelle ces chrétiens des hommes irrésolus. C'est au verset 8. Purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Le terme grec nous dit double de cœur, à l'âme double, partagée en deux, avec des affections qui vont à la fois pour le Seigneur et à la fois pour le monde. On s'est pas résolu pour l'un ou pour l'autre. Catégoriquement, on va un peu glaner dans les deux champs. Jésus l'a dit, nul ne peut servir de maître. Alors comment se fait-il que je sois vite un homme double de cœur? Eh bien, c'est que j'ai un ennemi intérieur. La parole appelle cet ennemi intérieur le vieil homme. Ou encore la chair. La chair a des appétits vers une vie vécue sans la direction de l'Esprit de Dieu. La chair a des appétits vers une vie vécue sans la direction de l'Esprit de Dieu. Je lis pour vous Galates 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et Jacques nous dit, mais oh, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en nous? Oui. Eh bien, c'est avec jalousie que Dieu chérit son esprit qui doit diriger notre vie, notre existence, qui doit avoir notre affection. Et qui ne se partage pas avec la chair. Et ce texte nous dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vivre par l'esprit s'oppose à vivre par la chair. Et il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'y a pas une sorte de milieu où on n'est ni vraiment conduit par l'esprit, pas non plus conduit par la chair, faut pas exagérer. Vous voyez, une sorte de no man's land, un terrain neutre. Non? Quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui me dirige, c'est la chair. Alors, ça ne veut pas dire que tout de suite, je fais tout et n'importe quoi de ma vie et que des énormes bêtises s'accumulent. Ouais, ça peut, hein. Non, je peux rester quelqu'un de tout à fait correct, quelqu'un de bien, hein, entre guillemets. Il y a plein de gens bien. Et je peux ne pas être dirigé par l'esprit et être dirigé par la chair en étant quelqu'un de correct. Un chrétien correct, mais pas dirigé par l'esprit. Et ça va vite que l'ennemi de nos âmes, le diable, trouve le complice intérieur, ce complice à l'intérieur même de la place qui appartient à Dieu, que Jésus-Christ a racheté par son sang. Eh bien, il y a un complice de Satan, c'est la chair. Et Jacques lance cet appel vibrant dans notre texte, résistez au diable, au verset 7, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alors, comment résister au diable? Ben, il s'agit pour nous de ne pas laisser ce complice intérieur, la chair, dont les appétits sont tournés vers autre chose que la direction du Saint-Esprit dans notre vie. Il s'agit de ne pas laisser ce complice faire son œuvre de sabotage. Alors, le pouvons-nous empêcher cet ennemi intérieur de saboter? Oui. Oui. Parce que lors de notre conversion à Jésus-Christ, lors de notre nouvelle naissance, il y a quelque chose de fondamental qui a changé. Et nous le trouvons en Romains 8, verset 12. Il dit, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. On ne lui doit plus rien à cet ennemi intérieur, à ce complice. Ouais, avant, il avait du pouvoir de nous orienter dans ses désirs. Mais aujourd'hui, il n'a plus la capacité de nous obliger, de nous contraindre. Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Plus loin dans l'Épître, en Romains 13, au verset 14, il nous est dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, que nous disent ces deux versets? Ils nous disent que Dieu a rompu notre lien d'obéissance à la chair. Ce lien d'obéissance à la chair, qui est celui de l'homme sans Dieu, de l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, ce lien-là d'obéissance à la chair, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ce lien-là, il a été rompu. Et Dieu nous a donné la capacité de décider à qui nous allons obéir. Et c'est pourquoi, au verset 7, Jacques commence en disant « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. » Soumettez-vous donc à Dieu. À qui est-ce que je vais obéir? Le Seigneur nous a dit « Vous n'êtes plus esclaves du péché pour lui obéir. Vous n'êtes plus redevables à la chair pour vivre selon ses appétits. » Alors, décidez à qui vous allez obéir. Vous avez la capacité de décider de vous soumettre à Dieu et de résister au diable. De ne pas prendre soin de cet ennemi intérieur dont les appétits parfois nous interpellent, nous lancent. Ou nous pouvons aussi opter pour livrer nos membres à l'iniquité. Et c'est une décision, ailleurs, hein, dans Romains, il dit, de même que vous avez autrefois livré vos membres au péché, l'iniquité, maintenant, livrez vos membres comme instrument pour la justice. Mais ça, c'est une décision qui nous appartient et une décision qui nous était impossible lorsque nous n'étions pas enfants de Dieu. Une décision qui n'était pas possible de prendre. Mais Jésus-Christ est rentré dans notre vie, dans notre cœur, et il a rompu ce lien d'obéissance que nous avions autrefois à la chair. On ne pouvait pas faire autrement que d'obéir à la chair. Ça, c'est fini. Alors, redisons-le, il n'y a pas de position intermédiaire où nous ne serions ni vraiment conduits par l'Esprit de Dieu, ni vraiment conduit par la chair. Et pourtant, c'est ce que nous pensons à quelque part. Si l'on me demande, Adrien, est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu en ce moment? Eh bien, je vais vous répondre avec honnêteté, souvent, et je vais hésiter à répondre oui, parce que hein, peut-être que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris du temps avec le Seigneur, que je ne l'ai pas consulté, que je n'ai pas passé du temps à lui apporter mon cœur, à régler, à confesser divers petits péchés. Alors, je vais dire non. Mais je ne dirai pas non plus que je suis conduit par la chair. Vous voyez? Et pourtant, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est aux commandes, c'est la chair. Nous sommes esclaves de l'un ou de l'autre. Nous sommes esclaves de la justice pour arriver à la justice ou de la chair pour arriver à l'iniquité. Nous pouvons choisir à qui nous obéissons. Alors la maturité, c'est de s'examiner. Et je dois régulièrement faire un bilan sur moi-même. Divers passages de l'Écriture nous y encouragent. La belle prière de David au psaume 139, nous pouvons l'apprendre parce que c'est aussi des paroles d'un cantique. Psaume 139, verset 23. Psaume 139. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Est-ce que nous demandons au Seigneur de nous sonder, de nous examiner? Seigneur, je veux examiner, je veux que tu examines mon cœur et que tu me montres si je suis sur une mauvaise voie. Que tu me montres la nature, l'état de mon cœur. Est-ce que c'est celui d'une double âme, d'un double cœur, qui veut t'avoir pour ami, qui veut aussi avoir le monde pour ami, qui place une partie de son bonheur en toi, mais qui ne dédaigne pas le rire, la joie et l'élévation de la chair. Or, la maturité, pour le chrétien, ça consiste à nous examiner régulièrement. D'ailleurs, lorsque nous prenons la Sainte Cène, c'est un rappel que la parole de Dieu nous fait, que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange et qu'il boive, mais celui qui mange et qui boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Éprouvons-nous, examinons-nous. Mes réactions, mes décisions, mes actes, mes attitudes, mes relations, est-ce qu'elles sont le fruit du Saint-Esprit qui habite en moi et que Dieu chérit avec jalousie? Là, si ma conscience me souffre qu'en ce moment, je ne suis pas particulièrement rempli de l'esprit, alors qu'est-ce que je dois en déduire? Eh bien, je dois en déduire que je marche selon la chair. C'est tout. Et je dois être dans cet examen qui me conduit à ce que Jacques dit. Sentez votre misère, soyez dans le deuil. Au verset 8, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. La maturité, c'est donc de s'examiner parce que, avec cet ennemi intérieur qui est là, eh bien oui, il y a du combat spirituel, oui, il y a des tentations, oui, la chair nous lance ses appels. Mais lorsque je vis par l'esprit, alors je peux ne pas prendre soin de ces appels, de ces sollicitations de la chair pour les satisfaire, pour donner satisfaction. Alors toi, tu restes à ta place et tu n'as pas de place dans mes pensées, dans mon action, dans mes décisions. C'est le Saint-Esprit qu'il a. Est-ce que je suis animé de la sagesse d'en haut? Mon moteur est-il l'Esprit de Dieu? Et nous devons régulièrement nous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, mon moteur, ça a été l'Esprit de Dieu? Alors, il y a des petites choses indicatives qui peuvent vite nous le dire. Tiens, quelle est la place où Dieu me parle? Puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce que, simplement, je parle au Seigneur en ce moment? Je lui parle. Ce sont des petites indications qui vont vite nous dire si ma réponse est « Ah ben non, ah ben non ». Est-ce que je prends le temps de confesser mes manquements quotidiens, de revenir sur telle attitude et dire « Seigneur, là, j'ai mal réagi. Seigneur, là, je te demande pardon. » Et nous pouvons nous continuer de nous poser des questions comme cela et nous allons vite déterminer si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu ou si on s'est mis en pilotage charnel. Alors, Ça semble couler de source, hein, qu'un examen de soi régulier est une chose indispensable à une vie chrétienne mûre, solide, fructueuse. Et pourtant, cet examen, c'est la première chose dont on se passe. Et il s'agit de faire enfin face à soi-même. Parce que si on s'en passe, c'est parce qu'on résiste à Dieu. Vous avez vu qu'il y a plusieurs fois le mot de résister ici dans ce texte. Résister au diable, il fuira loin de vous. Mais il y a aussi Dieu résiste aux orgueils. Et il y a souvent une sorte d'orgueil qui fait qu'on trouve qu'on n'a pas vraiment besoin de s'examiner. On a tiré les conclusions avant l'examen. Vous voyez, vous faites le contrôle technique et vous avez déjà sorti la fiche que tout va bien avant d'avoir fait tous les tests. Tout va bien, je vais bien, ma vie va bien. Bon, ça va. Charnel. Non. Et Dieu veut débusquer ce visage. Mais on résiste. Et quand on résiste, Dieu nous résiste aussi. Et la grâce ne coule pas dans notre vie. Jacques nous dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Eh bien, nous faisons souvent le contraire. Nous résistons à Dieu et nous nous soumettons au diable. Nous soumettons au diable en permettant à l'ennemi intérieur, la chair, de satisfaire ses convoitises en nous. Alors n'invoquons pas la pression de Satan pour nous excuser. Ah oui, mais j'ai des attaques, Satan. Jacques il dit, oh, quand tu résistes, Satan s'enfuit. Résiste au diable et il fuira loin de vous. Satan s'enfuit face à un chrétien résolu. Et nous retrouvons ce mot résolu. Résolu ou irrésolu? Double de cœur ou simple de cœur pour le Seigneur? N'invoquons pas la faute des autres. On a vu dans le début de cet épître, de ce chapitre, les luttes, les querelles, les rivalités, se mordre et se dévorer l'un l'autre. Oui, oh là là, des gens compliqués, certainement qu'on est même marié avec Dieu. Mais c'est pas les autres. C'est mes mains à moi qui sont à nettoyer. C'est mon cœur à moi qui est à purifier. Mais mon orgueil fait que je ne veux pas voir dans le miroir ce visage-là, et je suis dans un rire, dans une joie, dans une élévation. Tout va bien, je vais bien. Non, ça va avec le Seigneur. Bon chrétien, non. Mais c'est du faux. Le Seigneur nous dit, stop, il faut que ça s'arrête et que tu passes par les larmes. La maturité, c'est donc de reconnaître l'ennemi, je le vois quand je me regarde dans le miroir. Alors admettre que l'on résiste à Dieu et que l'on se soumet au diable, ça fiche une claque. Hein. Hein, quand on le dit comme ça, ça fait un peu mal quand même. Hein. Il dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Mais la réalité, c'est souvent que je résiste à Dieu, que je me soumets au diable. Là, ça, bam! Quand on le dit comme ça, ah! Eh oui, mais c'est ça le chrétien au double cœur qui essaye de suivre à la fois Jésus et à la fois le monde. Eh bien, ce chrétien au double cœur, il est sommé par Dieu de passer par une expérience profonde de tristesse intérieure, par une expérience profonde de consternation face à lui-même. Il dit au verset 9, sentez votre misère. Sentez votre misère. Mets le nez dans les odeurs nauséabondes des convoitises de la chair que tu laisses agir dans ta vie. savez, des fois, on ne sait pas trop si on sent bon ou quoi. Est-ce que je prends la douche, je ne prends pas la douche. Hop, on respire sous les aisselles. Et puis là, on évalue. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'il faut puer? Et puis notre nez s'habitue. Et là, le Seigneur dit, mais sentez votre misère. Arrête ton rire, ta joie, ton élévation. Arrête. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Cette puanteur, c'est la mienne. Aucune fierté, alors, mais l'humiliation. Pas de quoi se réjouir, mais abondamment de quoi pleurer. Et il faut pleurer. Le temps des larmes sur son péché, sur son infidélité à Dieu, sur ce double cœur, est essentiel. Et quand ce temps des larmes est absent, la vraie repentance est absente. Quand ce temps des larmes est minimaliste, souvent on est plutôt sur le minimaliste, je verse une larmichette sur ma misère. Mais alléluia, le Seigneur pardonne tout, il est grâce, il est tout ce que tu veux, il a amour, il a tout, tout va bien, je vais bien. Et ma larmichette, elle suffit. C'est pas vrai. Pour une transformation profonde et durable, pour un chrétien mûr et ancré, il y a une consternation face à soi-même, devant ce visage, devant cette réalité, il y a ce passage que nous devons faire, de sentir notre misère. Il y a un deuil à mener. Et nous savons que dans la société d'alors, le deuil se porte un bout de temps. Quand quand le temps des larmes est minimaliste, la repentance est superficielle. Et sans doute, Jacques, ici, alerte l'Église, alerte les chrétiens sur un danger pour l'Église, d'une Église qui serait remplie de chrétiens dont la repentance est minimaliste parce que les larmes sont minimalistes. Ah, mais de chrétiens qui, par contre, veulent la joie. Chrétiens qui veulent la joie, mais sans préalablement passer par les larmes. Voyez là, ils étaient déjà dans le rire et dans la joie avant d'être dans les larmes. Parce que ce n'est pas notre cas. Ça nous questionne hein, sur nous-mêmes, mais j'ai même envie de dire sur nos cultes. Nous souhaitons nous lancer allègrement dans la louange, dans l'adoration. On aime que le culte soit joyeux, animé, avec des cantiques entraînants et surtout des visages enthousiastes. Hein. Mais savons-nous donner du temps aux larmes qui précèdent la joie? Savons-nous donner du temps à la confession et à l'humiliation de nos cœurs en Église? Jacques termine par une promesse divine absolument formidable, c'est celle du verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oui. L'abaissement précède l'élévation, les larmes précèdent la vraie joie, la prise de conscience de notre misère précède la vraie guérison. Rire, joie et élévation, oui. Oui, mais les vrais. Ce que Dieu donne à des hommes et à des femmes qui admettent l'état de leur cœur double et qui passe par des larmes profondes et salutaires. Et alors, et seulement alors, mais alors, Dieu tient sa promesse et il élève véritablement et majestueusement. Or, frères et sœurs, comme le disait la chanson, hein, oui, on veut tous le bonheur, mais quel bonheur! Le rire, la joie et cette élévation vers le bonheur, Jésus-Christ veut et peut nous la donner parce qu'il donne la vie à ses brebis avec abondance. Mais il nous demande d'avoir une maturité et de savoir regarder la réalité en face de nos visages parfois et de passer par les larmes s'il le faut et autant de fois qu'il le faut. Et alors le Seigneur tient promesse. Et la joie et l'élévation qui vient de lui, c'est lui qui élève. Et c'est pas factice, comme le rire et la joie et l'élévation que le monde peut offrir. Dans le Seigneur, c'est une vraie élévation. Prions. Merci Seigneur parce que tu veux nous alerter sur le mensonge de l'ennemi qui veut nous offrir un faux rire, une fausse joie, une fausse élévation, en faisant de nous des chrétiens mixtes, des chrétiens adultères, qui t'aiment, mais qui aiment aussi le monde, et qui pensent que les deux peuvent cohabiter, se concilier. Seigneur, tourne nos cœurs vers ce vrai rire, cette vraie joie, cette vraie élévation que tu donnes. Montre-nous si nous avons besoin de nous humilier, de pleurer, de faire deuil. Peut-être individuellement, peut-être en famille, peut-être en église. Tu nous montres que c'est un temps qui, dans la vie de chacun, est nécessaire à plus d'une reprise que nous ne passions pas. Parce que nous trouverons alors l'élévation que toi tu donnes. Merci Seigneur, parce que si nous nous humilions devant toi, alors tu nous élèves. Merci pour cette promesse que tu tiens dans nos vies. Au nom de Jésus.